Bonjour Victoria, bienvenue dans Le Débrief, votre émission d'info quotidienne du lundi au jeudi à l'antenne de CILS FM. Il est 16h, Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. Merci d'écouter le 107.9 FM dans la grande région de Victoria. C'est Denis Lépine qui a l'honneur de lancer l'édition du jour, comme à tous les jours. On écoute tout de suite ces bulletins d'actualité. Je vous retrouverai avec la météo détaillée dans un peu plus de 4 minutes. On a 17 degrés actuellement avec le soleil au centre-ville. Après les bulletins et la météo, on aura le bulletin quotidien de l'ONU et ce sera suivi des infos provinciales. Et à la mi-temps de l'émission, je vous réserve une longue interview de l'artiste de Victoria, Nathalie Leduc, qui nous débriefe l'édition 2016 du festival Burning Man. Bonne émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Sécurité à bord des transports ferroviaires, eh bien, le Bureau de la sécurité des transports du Canada vient de publier le rapport sur son étude de sécurité. Cathy Fox, présidente du bureau, a dit que la nécessité d'installer des enregistreurs audio-vidéo de locomotives figure sur la liste de surveillance de l'organisme, et ce depuis 2012, et recommande toujours l'installation de ces appareils. Cathy Fox a ajouté que les données de ces appareils permettront au chemin de fer de cibler et de réduire les risques avant que des accidents ne se produisent. À la conférence sur la recherche canadienne dans le domaine de la douleur, eh bien, chercheurs, cliniciens, partenaires, organismes caritatifs, patients et responsables de politique poursuivent leurs discussions à Toronto. Ils ont déclaré que leur but demeure le même, soit de créer un programme national qui aidera les instituts de recherche à préparer de nouvelles possibilités de financement pour la recherche sur la douleur. Les instituts de recherche en santé du Canada sont les hôtes de la conférence. Maintenant, bien du côté de l'Office national de l'énergie, ce dernier annonce le lancement d'une page web. Selon l'Office, eh bien, la page permettra aux gens de partout au pays d'en savoir plus sur la conformité des sociétés aux conditions d'approbation des oléoducs. Plus de 3200 conditions d'approbation sont maintenant en ligne. Il est à noter aussi qu'il y aura publication le 30 septembre prochain des manuels des mesures d'urgence des sociétés. Peter Watson, président de l'Office, a dit que l'Office est convaincu que les Canadiennes et Canadiens ont le droit d'avoir un accès plus large à l'information réglementaire. Marianne Mychuk, ministre de l'Emploi, du Développement de la Main-d'œuvre et du Travail, et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, John McCollum, ont fait une déclaration concernant le programme des travailleurs étrangers temporaires. Ils se sont prononcés sur le rapport du Comité permanent des ressources humaines, du développement des conséquences et du développement social. Ils ont dit que le comité a reçu notamment une soixantaine de soumissions écrites provenant d'intervenants et a entendu le témoignage de hauts fonctionnaires. Les ministres ont dit qu'ils vont examiner le rapport et devraient y répondre d'ici 120 jours. La Banque mondiale vient de rendre publique une étude qui jette le voile sur la menace des infections résistantes aux antibiotiques. Selon le document, ces infections pourraient avoir des effets dévastateurs sur l'économie mondiale d'ici 2050. L'étude montre que selon le pire scénario, eh bien, la résistance aux antibiotiques pourrait notamment envoyer près de 30 millions de personnes dans la pauvreté d'ici le milieu du siècle. Selon une enquête de CBC News, la police fédérale canadienne et les services de renseignement ont mené des interrogatoires sous la torture de 3 Canadiens en Syrie suite aux attentats du 11 septembre 2001. Il s'agit d'une information qui va à l'encontre de la position d'une commission d'enquête en 2008. La Société d'État a précisé dans son document que le Service canadien de renseignement et la GRC ont coopéré avec les responsables syriens lors des interrogatoires. Le ministère des Finances a mentionné dans un communiqué que les gouvernements du Canada, au niveau fédéral, provinciaux et territoriaux, ont conclu un accord qui a été qualifié d'historique pour améliorer le régime de pension du Canada. Ottawa estime que la nouvelle façon de faire permettra à un plus grand nombre de Canadiens de bénéficier de la sécurité du revenu de retraite et de créer de l'emploi. Le ministère estime également qu'une famille sur 4 à l'approche de l'âge de la retraite risque de manquer d'argent le moment venu. Carla Coltrane, ministre des Sports et des Personnes handicapées, a souligné l'importance de l'accessibilité dans le secteur des transports. Elle a aussi parlé du processus de consultation qu'elle dirige actuellement afin d'orienter l'élaboration de la loi prévue sur l'accessibilité. Et concernant maintenant la Semaine internationale des sourds, la ministre a déclaré qu'elle invite les gens à reconnaître et célébrer les personnes sourdes et leur contribution à la société canadienne. Au sport baseball majeur, gain de Toronto 3-2 contre Seattle. Pendant ce temps, gain de Boston contre Baltimore 5-2. C'est donc dire que les Jays sont toujours à 4 matchs de la tête. Toronto sera à nouveau à Seattle ce soir. Au hockey, Coupe du monde, victoire de l'Europe 3-2 contre la République tchèque en prolongation et victoire de la Russie 4-3 contre l'Amérique du Nord. Ce soir, match très attendu entre les États-Unis et le Canada. Et au football de la NFL, au match du lundi soir, victoire de Philadelphie 29-14 à Chicago contre les Bears.
Merci d'écouter CLSFM 107,9. C'était les bulletins de Denis Lépine. On va jeter un petit coup d'œil à la météo maintenant, si vous le voulez bien. On a 13 degrés actuellement dans le port de Victoria à 16h05. Ce sera encore dégagé en soirée. On a 17 degrés sur le campus de l'Université de Victoria et l'aéroport un peu plus au nord, à proximité de Sydney. Le mercure affiche 18 degrés. Donc plus dégagé en soirée, ça reste assez agréable. On aura des températures d'environ 19 en soirée. Demain, on nous prédit ce soir ce sera 11. Demain, ce sera 19 avec une journée ensoleillée pour le mercredi 21 septembre. Jeudi 22 septembre, on nous prédit 19 degrés avec le soleil. Le retour des nuages est prévu pour vendredi 23 septembre avec une probabilité d'averse fixée à 30% selon Environnement Canada. Et les nuages vont s'attarder sur Victoria au cours du week-end si l'on en croit les prévisions de météo.gc.ca. Ça demeure nuageux là pour le long terme. Ça reste quand même assez éloigné dans le temps, mais pour le moment, les pictogrammes sont sans appel. Des nuages vendredi, samedi et dimanche. Et des probabilités d'averses qui oscillent autour de 30 à 40% des maximums qui touchent 17 et 19 pour les journées de samedi et dimanche respectivement. Donc voilà, pour le moment c'est 18 degrés. On se déplace tout de suite vers le bulletin d'actualité de l'ONU, les Nations Unies, qui nous fournissent leur bulletin tous les jours. On écoute ça tout de suite et on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour le journal de la radio des Nations Unies. Une édition largement consacrée au dernier rapport du secrétaire général sur les activités de l'organisation, mais surtout à l'ouverture du débat annuel de l'Assemblée Générale. Nous reviendrons sur les interventions de Barack Obama et du président tchadien Idriss Déby, qui préside aussi l'Union africaine. Et puis dans le dossier coup de projecteur avec Adama Dieng sur le rôle des chefs religieux dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger. Rendez-vous annuel incontournable de la politique internationale, le débat général de l'ONU a donc débuté ce mardi matin à New York après une cérémonie pour marquer le premier anniversaire de l'adoption des ODD, les Objectifs de Développement Durable. Dans un discours qui tirait en partie le bilan des 10 ans qu'il a passé à la tête du secrétariat de l'ONU, Ban Ki-moon a passé en revue les faits les plus marquants de l'actualité internationale et onusienne, se disant notamment peiné que cette décennie ait été perdue pour établir la paix entre Israël et la Palestine, qualifiant de folie la perspective que la solution à deux États soit remplacée par un État. Le secrétaire général qui a ensuite exprimé ses regrets au sujet de deux situations qui, a-t-il affirmé, ont terni la réputation de l'organisation et traumatisé les nombreuses populations servies par l'ONU.
Les actes odieux d'exploitation et de violences sexuelles commis par certains soldats de la paix et d'autres membres du personnel des Nations Unies ont aggravé les souffrances des populations déjà prises dans un conflit armé et sapé les efforts les accomplis par tant d'autres agents de l'ONU dans le monde. Deuxièmement, Haïti a cumulé les épreuves peu après un tremblement de terre dévastateur. Le pays a été frappé par une épidémie de choléra. J'ai beaucoup de regrets et de peine face aux terribles souffrances du peuple haïtien affecté par le choléra. Nous sommes fermement résolus à nous acquitter durablement de cette responsabilité morale.
Le débat annuel a été donc, comme d'habitude, lancé par le président de l'Assemblée générale, le Fidjien Peter Thomson, suivi par le président du Brésil. Puis, dans un ordre inhabituel, ce fut au tour du président tchadien Idriss Déby de s'exprimer en raison du retard pris par le président des États-Unis, pays hôte, Barack Obama, qui, du haut de la tribune de l'Assemblée, donc s'est félicité des réalisations de la communauté internationale observées au cours des 8 années de son mandat, s'appuyant sur ses succès pour justifier son appel au multilatéralisme, à la démocratie et au libre-échange. Christina Silvero.
Récupération suite à la crise financière, règlement diplomatique de la crise iranienne, rétablissement des relations avec Cuba, appui à la résolution de la crise colombienne, accord sur le changement climatique, autant de réussites dont Barack Obama s'est félicité en entamant son dernier discours aux dirigeants du monde comme président des États-Unis. Des réussites accomplies selon lui en travaillant ensemble, toutefois il s'est inquiété des failles qui existent dans cet esprit de collaboration, illustré par la crise des réfugiés, les problèmes sécuritaires au Moyen-Orient, la censure des médias, l'utilisation des réseaux sociaux par les groupes terroristes, la violation par des nations puissantes de leurs obligations internationales. Pour Barack Obama, le monde est confronté à un choix, continuer à aller de l'avant avec un modèle de coopération et d'intégration ou resombrer dans un modèle marqué par des divisions ethniques, religieuses ou raciales. Barack Obama a plaidé pour le multilatéralisme, la démocratie et le libéralisme économique, assorti de quelques ajustements. Justement, il a notamment prôné la réduction de l'écart entre les riches et les pauvres, le rejet de toute forme de fondamentalisme et le renforcement de la coopération internationale ancrée dans le droit et les responsabilités des nations.
L'Assemblée générale donc qui avait au préalable entendu l'allocution du président du Tchad, Idriss Déby, le président en exercice de l'Union africaine, a estimé que le monde fait actuellement face à des menaces de plusieurs ordres et suscite de grosses inquiétudes. Les conflits armés, le changement climatique, les migrations à grande échelle, le sous-développement, la pauvreté, les crises économiques, politiques et financières prennent une ampleur inégalée, a-t-il déclaré. Il a toutefois estimé que le terrorisme constitue la menace la plus importante, en particulier pour le continent africain.
Dans ce monde d'incertitude, l'Afrique est le continent le plus vulnérable et le plus exposé. Victime de la spoliation coloniale et aux prises avec les multiples problèmes du sous-développement, l'Afrique est aujourd'hui attaquée de plein fouet par le terrorisme, la menace du siècle. La Somalie, la Libye, le Mali, le bassin du lac Tchad, le Sahel dans son ensemble sont gravement déstabilisés et le péril cherche à se répandre sur l'ensemble du continent. L'Union africaine et ses États membres, malgré la modestie de leurs moyens, sont fortement mobilisés et engagés dans la lutte contre ce fléau absolu. Cet élan de mobilisation devrait être renforcé et appuyé par l'ensemble de la communauté internationale sous toutes les formes.
Et puis l'actualité en ce mardi, c'est aussi la Syrie et l'attaque ciblée lundi soir contre un convoi humanitaire de l'ONU et du Croissant Rouge arabe syrien à Urum al-Kubra, au nord-ouest de la ville d'Alep. Une attaque largement condamnée par Ban Ki-moon ce matin. De son côté, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Stephen O'Brien, s'est dit dégoûté et horrifié. Le point avec Isabelle Dupuis.
Au moins 20 personnes auraient été tuées ou gravement blessées à la suite de ces attaques, y compris des bénévoles du Croissant Rouge syrien. Un entrepôt et une clinique de l'ONG ont également été endommagés. L'itinéraire du convoi, censé atteindre 78 000 personnes dans des zones de l'ouest d'Alep aux mains de l'opposition, avait pourtant été transmis à toutes les parties au conflit, de même que les lieux de livraison. En dépit de ces précautions, vers 20h15 lundi soir, le convoi a été bombardé alors qu'il était en train d'être déchargé. L'ONU a été informée de ces attaques pendant qu'elles se déroulaient, mais malgré ces interventions auprès des parties au conflit, elles se sont poursuivies pendant la nuit. La commission d'enquête internationale indépendante sur la Syrie a dénoncé une attaque qui survient à un moment critique, la livraison d'aide aux zones assiégées étant un aspect essentiel de l'accord sur la cessation des hostilités qui a été facilité la semaine dernière par les États-Unis et la Russie.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité et les événements parallèles en marge du débat de l'Assemblée Générale, à l'instar de la réunion de haut niveau co-organisée par le conseiller spécial du secrétaire général pour la prévention du génocide, Adama Dieng, sur le rôle des chefs religieux dans la mise en œuvre de la responsabilité de protéger, principe qui rappelle aux États leurs obligations vis-à-vis de leurs citoyens. Pour en savoir plus sur le lien entre religion et responsabilité de protéger, Christina Silvero a tendu son micro à Adama Dieng.
Comme vous le savez, d'abord, toutes les religions prônent la paix, la non-violence. Et il se trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes les témoins d'atrocités criminelles qui sont le fait parfois d'éléments qui se réfugient derrière la religion. Et ce qui est inacceptable. Et l'exemple le plus éclatant, c'est ce monstre de Daesh qui commet des atrocités, non seulement en Irak, en Syrie, en Libye, mais qui influence hélas même des acteurs en Afrique, au sud du Sahara.
Alors concrètement, que peuvent faire les chefs religieux?
Les chefs religieux ont beaucoup d'influence. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire qu'ils ont même plus d'influence que les hommes politiques. On l'a vu, le rôle que Sa Sainteté le Pape a joué dans le règlement de certains conflits. Et les chefs religieux, où qu'ils se trouvent, peuvent encourager le message positif, le message de paix, faire en sorte que le message de haine ne se propage pas. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que mon bureau a lancé un projet qui va arriver à sa fin, à la fin de cette année, et portant sur le rôle des leaders religieux dans la prévention des atrocités criminelles.
Vous avez vu des exemples à l'œuvre, par exemple en RCA?
Mais tout à fait. En RCA, non seulement le trio de religieux, protestants, musulmans, catholiques, mais aussi d'autres acteurs sur le terrain ont démontré qu'à partir même du message religieux, on peut et on doit ramener les uns et les autres à vivre ensemble.
Alors, quel est l'objectif concret de cet événement? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir découler de cette réunion?
Mais j'espère que de cette réunion partira un message très fort, comme quoi la responsabilité de protéger, quand bien même elle incombe à l'État avant tout, mais également il est du devoir de chaque individu d'apporter sa pierre. Et c'est en cela que nous voulons voir les leaders religieux se mobiliser davantage dans la protection des populations qui font face à un risque de génocide, un risque de crime contre l'humanité ou de crime de guerre. Il y a des efforts qui sont faits ici et là, mais il en faut plus encore.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet et les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez CILS FM 107,9 dans la grande région de Victoria. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'infos quotidien du lundi au jeudi à l'antenne du 107,9. On va changer de perspective maintenant. On va passer de l'international au provincial. Radio-Canada nous apprend qu'une franco-colombienne devient vice-présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Il s'agit de Sophie Brassard. Sophie Brassard, la toute nouvelle présidente du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique, a été élue au poste de vice-présidente de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, la FJCF, lors de la 42e Assemblée générale annuelle de l'organisation dimanche à Ottawa, il y a quelques jours. Donc, Sophie Brassard assumera désormais les deux fonctions, donc au Conseil jeunesse et à la Fédération de la jeunesse canadienne-française. La jeune femme est originaire de la grande région de Vancouver. Elle est membre engagée auprès du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique depuis près d'une décennie. Sophie Brassard est diplômée de l'Université Simon Fraser en art de la danse et elle travaille désormais comme danseuse contemporaine. Toujours du côté de Vancouver, tenue d'une conférence réunissant les leaders du Nord-Ouest de l'Amérique du Nord, des politiciens, des PDG et des universitaires du Nord-Ouest du Pacifique se réunissent mardi, aujourd'hui donc, à Vancouver pour discuter de la création d'une plaque tournante de l'innovation dans la région. La première ministre de la Colombie-Britannique, Christy Clark, le gouverneur de l'État de Washington, Jay Inslee, le fondateur de Microsoft, Bill Gates, et et le PDG de la compagnie Satya Nadella, donc la même compagnie Microsoft, doivent participer à l'événement. Donc tout ce beau monde s'est donné rendez-vous sur Vancouver. La conférence, sur invitation seulement, est organisée par le Business Council of BC. Elle se concentrera sur les moyens d'accroître les liens entre Vancouver et Seattle. L'éducation, la main-d'œuvre, la santé, le transport et les ressources naturelles sont au programme de la rencontre. Selon le ministre des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, il est important d'explorer des moyens pour que Vancouver et Seattle collaborent étroitement. Les compagnies internationales, a-t-il dit, deviennent des compétiteurs locaux. Nous devons reconnaître que nous vivons dans un monde de plus en plus interrelié, a-t-il dit. C'est sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. Vous trouverez des nouvelles à propos de cette conférence un peu partout sur la toile aujourd'hui. On nous annonce également un recours collectif contre la taxe pour les acheteurs étrangers quelques 6 semaines après son entrée en vigueur. La taxe immobilière de 15% imposée aux acheteurs étrangers du Grand Vancouver fait l'objet d'une contestation juridique. Une demande de recours collectif a été déposée en Cour suprême de la Colombie-Britannique lundi au nom de tous ceux qui doivent se soumettre à cette taxe introduite par des amendements à la loi sur les transferts de propriété. Si la Cour accepte le recours collectif, la province pourrait avoir à rembourser des centaines de millions de dollars amassés depuis l'entrée en vigueur de la dite taxe le 2 août dernier. Les sommes donc qui ont été amassées depuis cette date sont prévues pour le financement de logements abordables pour les Britanno-Colombiens en vertu des décisions du gouvernement de la province. Donc la province a décidé d'imposer cette taxe, rappelons-le, pour tenter de calmer le marché immobilier de la grande région de Vancouver, où les prix des résidences atteignent des sommets depuis environ un an, un peu plus d'un an même. Et mentionnons que la ville de Victoria a elle aussi officiellement demandé l'application de cette taxe de 15% imposée aux acheteurs étrangers. Donc les investisseurs étrangers, justement, notamment chinois, sont accusés de contribuer à la surchauffe du marché de l'immobilier en Colombie-Britannique. Et concernant ce recours collectif introduit il y a quelques jours, la plaignante principale est une étudiante chinoise de 29 ans, Jing Li, qui habite présentement du côté de Burnaby. En août dernier, elle avait confié aux médias CBC se sentir prise au piège en raison de cette nouvelle taxe. La province de Colombie-Britannique nomme un surintendant pour superviser le marché immobilier. Donc, on reste dans ce même sujet. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a nommé un nouveau surintendant afin de surveiller la bonne mise en place des nouvelles régulations en matière d'immobilier. Michael Noseworthy, un ancien avocat originaire de Terre-Neuve et Labrador, a déjà occupé une fonction semblable au Yukon, ainsi que plusieurs autres postes au sein du gouvernement territorial. Cette nomination intervient après qu'un comité consultatif ait conclu en juin dernier que l'industrie de l'immobilier ne pouvait pas se réglementer elle-même. La première ministre Christy Clark avait alors répondu en promettant de créer un poste pour remédier à cette situation. On parle à présent d'oléoduc, de pipeline si vous préférez. La compagnie Enbridge qui pilote le projet Northern Gateway, c'est un projet de pipeline reliant l'Alberta, le nord de l'Alberta, au nord du littoral britanno-colombien, sur un tracé qui est très contesté. Donc Enbridge ne portera pas en appel le jugement qui avait rejeté l'approbation de son pipeline. Les promoteurs du pipeline Northern Gateway ne porteront pas en appel la décision de la Cour fédérale qui avait renversé en juin dernier l'approbation du projet par le gouvernement canadien en raison du manque de consultation des Premières Nations de la côte ouest. Le premier ministre Justin Trudeau s'oppose d'ailleurs à ce projet, ce qui pourrait accentuer la pression en faveur du pipeline Énergie Est dans l'est du pays et, ajoutons, peut-être accentuer la pression en faveur du pipeline Trans Mountain qui traverserait le sud de l'Alberta vers le sud de la Colombie-Britannique jusqu'à Burnaby, dans la région de Vancouver. Donc, voilà un nouveau développement survenu cette semaine dans le dossier des pipelines, donc Northern Gateway. Ce ne sera pas porté en appel. Rappelons que le controversé projet de pipeline de la compagnie Enbridge avait été approuvé par le gouvernement Harper en 2014. C'était assorti de certaines conditions. Mais la Cour a statué cette année, en juin, que la consultation des Premières Nations, qui dénonce depuis plusieurs années le projet, était tout simplement inadéquate. On va se tourner vers les pages du Times Colonist qui nous apprend aujourd'hui qu'un sondage mené auprès des personnes âgées de la Colombie-Britannique a permis de connaître davantage leurs besoins, leurs attentes en matière de soins et notamment de soins à domicile. Ce sondage a permis de constater que plus d'un tiers des personnes âgées consultées lors de ce sondage souhaitent des services à domicile plus étendus, des services comme le ménage, la lessive, la vaisselle, l'entretien. Donc plus de services à domicile, c'est le souhait formulé donc par les personnes âgées interrogées dans ce sondage. Vous avez dans cet article le détail des opinions émises par le groupe qui a été sondé. C'est dans le Times Colonist, je le disais. Le titre de l'article: Survey of BC Seniors Pinpoints Gaps in Home Support Services. Et je termine ce segment provincial avec une nouvelle très locale, tout près de chez nous. Ça concerne Victoria et sa fameuse épuration des eaux. L'usine d'épuration des eaux dont on parle depuis des années. On a appris la semaine dernière que le site de cette usine d'épuration, de traitement des eaux, avait été choisi. Il s'agit de McLaughlin Point et c'est du côté d'Esquimalt. Et donc, évidemment, cette décision a fait des vagues et du côté d'Esquimalt, bien sûr. Alors, une réunion réunissant des conseillers municipaux et des citoyens d'Esquimalt hier, hier lundi, l'émotion était vive, rapporte le média Victoria News. Beaucoup de déception, beaucoup de colère aussi de la part de citoyens qui ne sont pas contents du tout de l'installation dans le voisinage de cette usine de traitement des eaux. Donc, c'est l'endroit qui a été choisi par le comité qui avait été nommé par le district régional de la capitale, le CRD. Alors, ça a été une réunion mouvementée, rapporte Victoria News. Vous pourrez trouver le détail de cet article sur le portail vicnews.com. Le titre de l'article: Emotion Run High as Esquimalt Addresses CRD Sewage Plan. Voilà, donc c'est sur le média vicnews.com. On fait une petite intermède et on se rend tout de suite à l'interview du jour. On bouscule un petit peu le déroulement habituel de l'émission. La raison étant que cette interview que nous a accordée Nathalie Leduc est un petit peu plus longue que les interviews habituelles. Ça porte sur le festival de Burning Man qui s'est tenu il y a quelques jours, ce mois-ci, au Nevada. On avait passé la première partie de cette interview hier, mais je me rends compte que passer les interviews en deux sections, ça ne produit pas nécessairement de résultats heureux. Donc, ceux qui étaient à l'écoute hier, soyez patients, vous aurez simplement 10 minutes de redite et après, c'est du contenu original et on va se retrouver en fin d'émission pour le mot de la fin. Donc, dans quelques instants, cette interview que m'a accordée cette semaine Nathalie Leduc, artiste ici à Victoria, à propos du festival Burning Man. À tout de suite. Venez de vous joindre à nous. Vous êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous d'info à l'antenne de CILS FM 107,9 au quotidien du lundi au jeudi. On est en fin d'émission. C'est le moment de l'interview. on va parler d'un festival qui s'est tenu ce mois-ci aux États-Unis du côté du Nevada. C'est un festival dont on a déjà parlé avec Nathalie Leduc, une artiste de Victoria, que les élèves de Victor Brodeur connaissent bien aussi. Elle a enseigné à Victor Brodeur. Nathalie était venue nous dire quelques mots sur Burning Man avant le festival. Elle est de retour pour faire un compte-rendu. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Alors, je suis très touchée, tu m'as apporté un petit échantillon du sable du désert de Black Rock au Nevada où se déroule chaque année Burning Man. Alors, ça va vraiment occuper une place sur la console ici pendant quelques jours, peut-être quelques semaines. Merci beaucoup. Les auditeurs qui ont écouté la première interview savent que tu étais allé à Burning Man alors que c'était encore très peu connu en 2000.
Ben, c'était quand même déjà assez connu. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, en 2000, on parlait déjà là, d'un grand boom.
Oui.
Je pense qu'il y avait eu 28 000 personnes déjà.
Ah, carrément.
Donc, c'était quand même assez peuplé. Puis
oui.
On se disait, oh, c'est épouvantable, c'est gros. Mais là, en 2016, c'est encore plus gros. Je ne connais pas le nombre de personnes. Je ne sais pas combien de personnes sont venues cette année,
ouais.
Mais je sais que l'année dernière, il y avait 70 000 personnes.
Énorme.
Et cette
année,
on parlait encore d'un chiffre plus gros. Alors,
c'est
quelque chose d'assez connu, mais bon.
C'est ça, c'est que la courbe de croissance n'a cessé de grandir. Donc, c'était énorme en 2000. Là, c'est gigantesque.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est Burning Man? Est-ce qu'on peut juste rappeler les infos vitales?
Ben, Burning Man, c'est un essai de communauté, un essai de créer une communauté pour une semaine dans un désert. Il n'y a aucun arbre. Il faut apporter aussi tout ce dont on a besoin pour survivre pendant une semaine, toute l'eau dont on a besoin pour se laver et aussi pour boire. Et aussi, il faut, une des choses les plus importantes, c'est de rapporter aussi tous nos déchets pour ne laisser aucune trace sur le sable, en fait.
Voilà.
Et donc, le sable que je t'ai rapporté, c'est rien comparé au sable qu'il y a là-bas.
Non, c'est...
Il y en a du sable.
C'est à perte de vue.
Oui, non, c'est drôle. Puis, je peux te raconter une petite anecdote,
Justement, l'émission est faite pour ça.
Non, à un moment donné, j'ai trouvé un balai.
Oui.
Et j'ai commencé à balayer partout à l'entour de moi. Et bon, pendant une semaine, mon costume, c'était mon sarrau.
Oui.
Donc, c'était un costume très facile, mais c'est un costume qui me définit assez bien.
Oui, puis les gens qui étaient au Festival des francophones de Victoria en mai dernier ont pu te voir en sarrau. Tu avais une installation très particulière avec une dactylo qui faisait des portraits.
Oui.
C'était une de tes œuvres d'art, installation.
Oui. D'ailleurs, je la portais à Burning Man aussi. J'ai fait des portraits là-bas en français. Mais le truc du balai, ça a été vraiment drôle parce que je balayais très sérieusement, puis je disais qu'il fallait que j'aille finir avant que tout le monde se réveille, puis donc j'ai inventé des belles histoires, mais c'était l'idée impossible de tout balayer, en fait.
Donc ça, c'est Burning Man 2016.
2016, oui, cette année.
D'accord.
Ouais.
Et t'as trouvé le balai dès le premier jour?
Non, pas dès le premier jour. Ça m'a pris un petit peu de temps avant de trouver le balai. Il était sur une TV mobile, disons. C'est un,
okay.
Quelqu'un avait apporté cette grande... comment est-ce que je pourrais... une télémobile.
Ouais.
Comment est-ce que je peux décrire cette télémobile? C'est un grand véhicule sur laquelle, au-dessus de laquelle, il y avait une grande plateforme pour que les gens puissent se tenir, puis comme ça, on puisse voir quelque chose du haut là, de la télévision. Puis sur le côté, il y avait un grand trou et ça ressemblait à une télévision, tu sais. Il y avait des boutons, tout ça. Puis il y avait une scène à l'intérieur avec une table et puis des fauteuils un peu comme dans un talk show.
D'accord.
Donc, les gens pouvaient aller à l'intérieur et puis faire un talk show. Donc, c'est sur ce véhicule que j'ai trouvé ce balai. J'étais avec des amis qui faisaient le talk show. Et moi, j'étais un peu dans les coulisses. J'étais dans les coulisses puis je passais... des objets aux gens, puis ça faisait partie aussi un peu du talk show là.
D'accord.
C'était assez drôle.
On est en train de dégager, si tu veux, l'un des préceptes de Burning Man, qui est de participer et d'apporter quelque chose.
Oui.
Bien des gens construisent des chars ambulants, des chars allégoriques, ils montrent des structures impossibles, très farfelues, très fantaisistes. Oui. Et le site du festival, justement, c'est une agglomération de structures, de véhicules, de vélos et de milliers de gens déguisés.
Oui. Certains sont plus ou moins déguisés.
Là, ouais.
Mais, oui. Et ce que j'ai trouvé intéressant, une des premières observations que j'ai faites quand je suis arrivée, c'était, qui existe depuis longtemps, fait qu'en 2000, c'était aussi comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui s'habillent en femmes à Burning Man.
D'accord.
Et j'ai parlé à un de ses amis qui avait un tutu, qui avait l'air quand même d'un homme, il avait une barbe et tout ça, là, mais il s'habillait, là, avec des vêtements féminins.
Oui.
Et il expliquait, en fait, que c'est parce qu'il trouvait que, dans la vie courante, s'il s'habillait comme ça, on le regarderait un petit peu tout croche, mais là, à Burning Man, c'est permis, et donc, ils le font.
Il y a de la nudité aussi,
mais j'ai trouvé qu'il y en avait moins que qu'en 2000. Même s'il y avait plus de monde, j'ai trouvé qu'il y avait moins de nudité, mais plus de costumes comme ça, je sais peut-être pas plus, mais il y avait encore beaucoup de costumes, puis surtout des hommes en jupe. Puis je me suis fait la remarque, en fait, mais si tous ces hommes en jupe ici aiment se mettre en jupe et qui se mettaient en jupe dans la société, il y en aurait beaucoup. Le pourcentage était quand même assez élevé, là. Donc je pense qu'ils pourraient y aller.
Il faut se lâcher un peu. Donc il n'y a pas juste Burning Man qui est en vase clos comme ça. Il faut être comme ça dans la vie aussi. Ouais. Est-ce que tu peux comparer 2000 et 2016? Donc tu étais à Burning Man en 2000.
Oui.
Tu y étais il y a quelques jours en 2016. Peux-tu comparer les deux éditions?
Oui, en fait, je vais avouer quand même que j'ai pas beaucoup de souvenirs de 2000.
Ah bon? Est-ce qu'on doit en conclure que...
Absolument pas. Non. Je suis une fille tout à fait sobre. C'est juste le temps, tu vois.
Oui.
Le temps
fait son œuvre.
Le temps fait son œuvre et il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui s'est passé dans ma vie depuis ce temps-là. Donc, j'ai pas beaucoup de mémoire de souvenirs.
Mais t'as quand même un sentiment.
Mais j'ai un sentiment. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ces véhicules dont on a parlé avec les grandes plateformes pour accommoder beaucoup de personnes, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus.
Ouais.
En l'an 2000, il n'y en avait pas beaucoup. OK? Il y en avait, mais pas beaucoup comparé à l'explosion incroyable de ces véhicules. Puis, en l'an 2000, ce qu'on appelle les hard cars, donc les voitures décorées où tu avais peut-être une ou deux personnes qui pouvaient s'asseoir, il y en a moins en comparaison à ces grands véhicules avec des plateformes pour accommoder beaucoup de personnes.
Mm-hmm.
Ouais. Et puis,
c'est quoi la journée type à Burning Man? C'est peut-être pas une journée diurne comme on les connaît dans notre vie, métro, boulot, dodo, ou
non,
en
pas
tout
cas,
autobus.
On peut prendre l'autobus là-bas aussi.
C'est ça qui est remarquable. Donc il y a des points communs, mais toi par exemple, tu te levais le matin?
Oui, je me levais quand même assez tôt je me levais vers 6h. 6h, je me réveillais, je sais pas pourquoi, je me réveillais.
Ça y était,
je me réveillais, puis je suis un peu fatiguée, là, le matin.
Mais il y a de l'action sur le site à cette heure-là.
Il y en a pas beaucoup, mais il y a des gens qui circulent, qui vont faire leurs petites affaires, là.
Des gens qui sont pas encore couchés, peut-être?
Peut-être. Il y a des gens qui vont se coucher à cette heure-là aussi, là.
Ouais. Mais pour toi, puis, ça ressemblait à quoi, comme...
Ouais, c'est ça. Donc, le matin, je me lève, je mange un peu, puis... je parle avec les gens qui sont avec moi dans le camp. On est regroupés par différents campements. Et puis, moi, j'étais avec les hard cars. Et donc, les voitures décorées. J'avais quelques amis dans ce camp-là. Puis, j'ai découvert de nouveaux amis aussi.
Oui.
Ce qui est un gros avantage de Burning Man, c'est que les amitiés se forment assez rapidement. On traîne un peu pendant la journée. On va voir, parfois j'allais me promener un peu partout, soit en vélo, soit avec d'autres personnes pour aller voir l'art, là, aller voir les belles structures, puis les sculptures. Donc il y avait des choses pendant la journée. Donc si tu veux voir les sculptures en plein jour, c'est le temps d'y aller pendant la journée.
Hein? Oui, parce que c'est mieux. On les voit mieux.
On les voit mieux. Puis, on va chercher de la glace, parce que la glace, c'est une des seules choses qu'on peut acheter. Donc, on va chercher de la glace si on en a besoin pour des raisons de réfrigération. Et puis, quand on a un vélo qui fait de la crème glacée, ben c'est bien d'avoir un peu de glace.
Oui, alors ouvrons la parenthèse. Il y avait un véhicule bien spécial, spatial, que tu avais conçu et réalisé avec l'aide d'amis américains, un véhicule qui s'appelait le Churnatron 1400.
1400, ouais, t'as une bonne mémoire.
Alors, tu étais dans la section des véhicules d'art.
Ouais.
Le Churnatron brillait parmi cette écurie de véhicules d'art.
Ben, il était très différent des autres parce que les autres, c'était plutôt des véhicules motorisés.
Ouais.
Et puis, bon, le Churnatron, c'est un véhicule à pédales, donc un vélo. un vélo avec quatre places, deux en bas, deux en haut, donc deux étages et six barattes pour faire de la crème glacée.
Ah ouais, donc c'est actionné par
actionné
les pédales?
Actionné par les pédales, oui. Par les gens qui sont, je sais pas si
oui,
sont des pédales.
Oui, il faut que l'humain pèse sur la pédale,
appuie sur la pédale. Mais ce qu'ils ont fait depuis que j'ai construit ça en mars, ils ont rajouté des petits moteurs sur les roues en avant. Donc, ça aidait un petit peu, là. Ça nous aidait aussi un petit peu à circuler, même si, bon, il fallait quand même pédaler, là.
Oui.
Mais bon, le Churnatron est arrivé un peu en milieu de festival parce que la personne qui l'apportait, c'est à ce moment-là qu'elle pouvait venir. Et puis quand il est arrivé, il était brisé. Et j'ai dû passer un jour et demi, une journée et demie à le réparer, à le ressouder pour qu'on puisse l'utiliser. Puis on l'a utilisé trois jours. On l'a utilisé trois jours. On a fait de la crème glacée qui a ramolli très, très rapidement parce qu'il faisait chaud.
Ben, c'est ça, c'est le désert du Nevada, on est
chaud.
En Fahrenheit dans cette région-là du monde, donc j'imagine que c'est 100-110.
Je pense pas que c'était aussi chaud que ça.
Non,
Il faisait quand même assez chaud, mais je pense pas qu'on est arrivé à 100. Là.
Tant mieux.
110, on aurait cuit, on aurait été complètement cuit, là, mais il faisait quand même assez chaud.
C'est énorme.
Peut-être 100, ouais.
Les auditeurs qui nous écoutent peuvent voir le Churnatron faire une très courte apparition dans une vidéo très jolie publiée sur le site Vimeo. Il faut taper. Tu te rappelles de l'auteur de cette vidéo?
Non, je me rappelle pas.
Je le dirai en terminant l'interview en live.
D'accord.
L'adresse exacte de cette vidéo d'une quinzaine de minutes, d'une 5 ou 6 minutes.
Ouais, c'est pas très long.
Dans laquelle on voit le Churnatron
en plein dans le milieu,
soulever la poussière du désert en pédalant vaillamment.
Il y avait beaucoup de poussière cette année, d'ailleurs.
Oui,
il y avait beaucoup on a eu des petites tempêtes de sable comme ça où on voyait rien, là. Il fallait s'arrêter. Quand tu vois rien, tu t'arrêtes puis t'attends que ça passe. Tu mets tes lunettes, là, puis ton masque, puis t'attends que ça passe.
C'est Donc, tu n'avais pas vécu ça en 2000.
Oui, il y en avait, mais peut-être pas autant que cette année. Cette année, il y en a eu pas mal. Puis, bon, on continue la journée?
Oui, okay. bien sûr.
Ce qui arrive, vraiment, la grosse partie de Burning Man, c'est la nuit que ça se passe.
Oui.
La nuit, il y a plein de véhicules qui illuminés, qui font beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Il y a beaucoup de musique techno cette année. J'ai remarqué qu'il y en avait vraiment beaucoup comparé à 2000. Beaucoup de LED, tu sais, des lumières,
des éclairages
LED, puis en fait, je pense qu'en français, c'est des
diodes électroluminescentes. Voilà.
Yeah. Puis, on va sur ce qu'on appelle la playa, la plage, tu vois, la grande étendue, là où il n'y a pas de campement, mais là où il y a beaucoup de sculptures, c'est là où il y a l'homme qui va brûler, il y a le temple, il y avait cette année des belles pyramides, et puis ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était des phares. Il y avait une sculpture, il y avait des phares, on pouvait monter dans les phares. C'était un peu comme une cabane dans un arbre, mais en beaucoup mieux. Là. C'était vraiment superbe. Et puis, donc, on va d'un endroit à l'autre, on visite, on fait des promenades comme ça sur ces véhicules intéressants. Puis avec la télévision, c'était vraiment intéressant parce qu'on...
La télévision ambulante,
oui.
C'est comme un plateau de télévision
ambulant. Oui, c'est un plateau de télévision ambulant. mais c'est plus du, ça tient plus du théâtre que de la télévision. Même si, bon, c'était vraiment le fun. Ben, je vais dire ça comme ça. Là. On s'est vraiment pas mal amusé avec ça. Puis, donc c'est ça. Puis, vers la fin du festival, on commence à brûler les structures.
Oui. Donc, l'homme éponyme qui donne son nom à Burning Man.
Oui. Lui, il brûle le samedi soir.
OK.
Et puis, après l'homme qui brûle, ben, ils ont brûlé les phares.
D'accord.
Et puis, le dimanche soir, c'était le temple qui a brûlé.
Oui.
Il y avait d'autres structures aussi, d'autres sculptures aussi qui ont été...
Incendié,
oui, exact.
Sans aucune retenue.
Mais la plupart du temps, ça se fait la nuit. Il y en a certaines structures ont brûlé le matin. À 6 heures du matin, je sais que les pyramides ont brûlé. mais je l'ai manqué. J'ai complètement manqué celui-là. Là. Mais pourtant, j'étais debout.
Est-ce que c'est un sentiment de tristesse qui prévaut à la fin d'une expérience aussi intense? Ou est-ce qu'on a encore un petit peu d'euphorie en réserve lorsque le man finit par brûler?
Mais tu sais, pour moi, l'homme cette année, l'homme qui brûle, ça n'a pas été vraiment le moment le plus fort. Parce
D'accord.
que quand il a brûlé, il y a toute une cérémonie avant. Il y a des danseurs qui font des danses avec le feu. Ça prend du temps. Puis après ça, ils allument l'homme. Et puis, il y a des feux d'artifice. Puis avant, le grand feu, tout ça. Puis les feux, j'ai trouvé que les feux d'artifice, ça distrayait un petit peu trop, là, tu sais. Moi, j'aime le feu. Je suis moins une fan des feux d'artifice. J'aime beaucoup puis je pense que dans le feu, il y a quelque chose de vraiment.
C'est une interférence.
Oui, parce que quand il y a quelque chose qui brûle, je pense que c'est beaucoup plus intense que de voir des feux d'artifice. Les feux d'artifice, c'est un spectacle.
C'est ça.
Puis ce qui brûle, c'est vraiment ce qu'il y a de fort. Et puis après, on est allé avec des amis, on est allé tout près du grand feu, là. Puis on a fait le tour, là. Mais s'il faisait chaud, là.
C'est clair.
Mais ce que j'ai préféré, en fait, à l'homme qui brûlait, c'était les phares. Quand ils ont fait brûler les phares, j'ai trouvé ça beaucoup plus beau, beaucoup
Est-ce
plus
que
intense.
Est-ce que ce sont des phares comme des phares de bateau?
Oui, des phares de bateau. Oui, pas des phares d'auto. Des phares de bateau.
Okay.
Puis ils étaient un peu croches. On peut voir des photos sur l'Internet. Là.
Oui.
C'était vraiment j'ai trouvé que c'était une très belle structure. Ce que j'ai aimé là-dedans aussi, c'est que ils étaient croches et puis il y avait dessus ils avaient utilisé des anciens cadres un peu brisés pour former une texture sur l'extérieur, puis à l'intérieur il y avait des petites installations j'ai trouvé que c'était vraiment pour moi là ce qu'il y avait de plus beau en tant qu'art. Le temple aussi était vraiment
comme des tours de Pise,
très belle. C'est un peu comme des tours de Pise, il y avait comme trois ou quatre tours dans le milieu puis des petits tours alentours là, puis il y avait des petits ponts à cordes entre les tours pour aller de l'une à l'autre là. C'était une belle expérience, puis grimper à l'intérieur c'était un peu quelque chose qui tient de l'enfance. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Puis quand ils ont brûlé, j'ai trouvé ça mieux parce qu'il n'y avait pas justement de feux d'artifice, de grosses explosions. C'était vraiment du feu.
C'est combien de jours en tout, Burning Man?
C'est une semaine.
C'est une semaine.
Du dimanche au dimanche lundi. C'est une grosse semaine. Il y a des gens qui arrivent un peu à l'avance là, s'ils ont des préparations à faire sur leur véhicule. Puis il y a des gens qui restent un peu plus tard. Moi, je suis restée un peu plus tard parce que j'ai aidé un ami à démonter son salon mobile.
Oui.
Donc, je suis restée un peu plus longtemps.
Oui.
Mais j'avais hâte de partir, là, à un moment donné, après être resté un jour de plus. Puis là, on a eu encore une autre tempête de sang toute la journée. Puis j'avais hâte de...
C'est une expérience avec certains défis, certains challenges aussi. C'est pas juste la fête. Il y a du contemplatif aussi, puis il y a du... Il y a de la, comment dire, une espèce d'expérience de confraternité avec les autres, évidemment.
Oui.
Puis le fait que tu me rapportes du sable aussi, il y a quelque chose, tu sais, comme c'est une expérience qui interpelle un peu tous les sens, puis le psychique aussi. Mais en même temps, ce que je veux savoir aussi, c'est est-ce que Burning Man a conservé son authenticité, son élan, sa fraîcheur des premiers temps? Il y a des témoignages un peu partout sur la toile qui rapportent des faits un peu inquiétants concernant ce festival-là. Est-ce que la première question que j'ai envie de te poser, bon, on sait que c'est 400 ou 500 $ participer à Burning Man. 390
plus la passe pour la voiture qui est 80 $.
OK. Donc on arrive à un petit peu plus que 500 US. Est-ce que c'est juste des blancs riches, ce festival-là? Tu sais, essayons de...
Je vais dire non, c'est vrai que la démographiquement, il y a beaucoup de blancs. Il y a plus de blancs que de gens qui sont pas blancs, là. J'ai regardé, c'est drôle parce que tu poses cette question-là, parce que j'ai regardé justement hier certaines données là, sur le census de 2000, je pense que c'est celui de 2014 ou 2015 que j'ai regardé. Donc, ils ont fait une petite recherche et puis ils ont trouvé la moyenne d'âge, c'est à peu près 30-35 ans. Il y a beaucoup plus de blancs, beaucoup plus de gens qui viennent des États-Unis en général. Et la moyenne, je dirais pas la moyenne, mais le salaire familial est assez élevé en général. Donc il faut, c'est des gens quand même qui ont les moyens, mais il y a des gens aussi qui gagnent rien, presque rien, qui viennent à Burning Man. Et mon expérience, en l'an 2000, j'avais un copain qui était allé depuis des années, qui y allait encore. Et puis lui, il gagnait pas beaucoup d'argent, l'artiste. Il y a beaucoup d'artistes qui gagnent pas beaucoup d'argent, qui
vont à Burning Man
encore en 2016. Okay.
C'est bon.
Puis il y a encore des gens là qui sont quand même assez pauvres qui y vont.
Oui.
Mais c'est vrai que ça demande quand même de beaucoup de ressources, parce qu'il faut
faut se déplacer,
il faut apporter tout ce dont tu as besoin pour une semaine, pour camper, etc. Donc c'est pas donné, là, t'sais.
On peut lire des comptes rendus sur Internet nous apprenant qu'il y a maintenant des campements qui sont un peu VIP, où ce sont des milliardaires de la Silicon Valley et des millionnaires, bien sûr, qui sont là seulement pour peut-être 24 heures, 36 heures, juste pour faire une apparition. Ils ont des véhicules de plus en plus extravagants, et puis c'est comme une course à l'ego où c'est à celui qui va flasher le plus et avoir les installations les plus futuristes. Il y avait tout à fait un esprit de compétition et de concurrence qui s'était installé dans ce festival-là, qui prétendait justement mobiliser des valeurs qui étaient celles de l'égalité et puis de la communauté.
C'est une bonne question, parce que pendant que j'étais là-bas, j'ai même pas remarqué en fait qu'il y avait ce genre de camp. Je l'ai appris en lisant après sur Internet, puis des gens qui me disaient des choses qui s'étaient passées.
Mais qu'il y avait eu un 747. J'avais
aucune idée là qu'il y avait des camps comme ça. Tu parles du 747. Oh. Oui, il y avait un 747. Je connais pas trop l'histoire qu'il y avait derrière ce 747. Je pense que je l'ai vu à un moment donné sur le bord, puis. Bon, je suis pas allé voir plus proche. Et puis,
c'est un
il y avait
747
des...
privé. On peut supposer que c'était un 747 privé. Est-ce que
non,
il avait été
nolisé
pour Burning Man?
Non, je pense pas. Je sais pas trop.
Un 747 de KLM,
non,
peut-être.
Non, mais je pense que c'était plus une installation. C'était une installation d'art. C'est pas un 747 qui
pouvait
marchait.
Décoller.
Non.
D'accord.
Je pense que c'était... Mais il me semble que non. Je pense que c'est juste un 747 où les gens pouvaient... entrée, il y avait des activités et tout ça.
Ok,
mais
dans ce sens-là.
Parce que c'était un peu controversé parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis dans ce projet.
Oui.
Et donc, il y avait des artistes dans mon camp, en fait, que j'ai entendu chialer
oui.
à propos de ça. Puis ils disaient à quel point ils n'aimaient pas cette installation, mais bon.
Oui. Mais quand un festival a du succès
oui.
et qu'il atteint un certain âge, après un certain nombre d'années,
oui.
il y a toujours des gens qui disent « bon, mais c'est plus comme avant,
oui, c'est vrai.
Ils ont perdu leur
oui.
élan
oui. ».
Et ça, c'est incontournable. Ça,
oui.
C'est le fait de toutes les manifestations qui s'échelonnent sur plusieurs années.
Oui.
Mais il y a des bémols intéressants à soulever par rapport à Burning Man.
Oui.
Est-ce que toi, par exemple, tu as envie d'y retourner? Est-ce que l'expérience est assez forte en 2016 pour dire oui, un jour, je veux retourner à Burning Man?
Oui, ben, moi, je vais y retourner pour des raisons... Bon, je pense qu'on a tous des raisons différentes d'aller à Burning Man. Mon expérience, c'est plutôt en rapport avec l'art
oui.
et en rapport avec les gens. En fait, j'aime beaucoup le social, l'aspect social à Burning
oui.
Man. Puis rencontrer de nouvelles personnes, voir ce qu'ils font. Je suis intéressée par les gens et je suis intéressée beaucoup par l'art. Donc, moi, je voudrais y aller pour faire de l'art, mais pour être aussi dans un projet, pour faire un projet qui est encore plus gros que ce que j'ai fait. Pour moi, c'est comme... je suis vraiment intéressée par ces grosses structures, par essayer de me dépasser... C'est ça qui m'intéresse à Burning Man. Bon, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à d'autres aspects. Il y en a qui s'intéressent à la nudité, qui s'intéressent au party,
ouais.
Qui s'intéressent à la musique, à
ouais.
la danse. Et ce que je trouve bien à Burning Man, justement, c'est qu'il y a une variété de gens, il y a une variété de goûts, il y a une variété d'art. Et j'aime ça, cette variété-là. Je voudrais pas que ça soit tout... Que tout le monde soit pareil, je m'ennuierais, je pense, que si tout le monde était pareil. Ouais, je pense qu'il y avait, disons, si on peut aller dans des catégories, il y avait là, un groupe, là, je dirais, plus techno, il y avait, qui sont peut-être plus jeunes, là, des gens beaucoup plus jeunes.
Mm-hmm.
Il y avait des enfants aussi.
Oui.
Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait des enfants. Il y avait un camp pour les enfants aussi.
Génial.
Il y avait des hippies, tu sais, des vieux
ouais.
hippies, des plus jeunes aussi, qui font du yoga, de la méditation, ce genre de choses. Et puis, il y avait aussi les Mad Max avec les...
Ouais.
Il y avait le Thunderdome, qui est vraiment une expérience ouais. extraordinaire d'aller voir des gens, comme un peu comme dans Mad Max,
ouais.
qui se tapent dessus un peu.
Mais, ah oui, carrément! Ouais.
Bon, il n'y a pas vraiment...
Il y a de tout, finalement.
Oui, il y avait ça, puis il y a des il y a toutes sortes d'artistes, et puis
ouais.
il y a aussi des gens... je ne dis pas on se demande ce qu'ils font là, mais c'est des gens là, complètement normaux
oui.
ben, ou alors qui sont eux-mêmes, qui ont des emplois au gouvernement ou
mm-hmm.
qui sont des biologistes ou des en fait, il y avait
oui.
vraiment
de tous les horizons,
des hygiénistes.
Sauf peut-être des carences au niveau des groupes ethniques
oui.
ou culturels.
C'est vrai qu'il y en avait, quand
ouais.
même, mais il n'y en avait pas tant que ça.
C'est ça.
Puis il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. J'ai croisé pas mal de gens qui venaient d'Israël.
Mm-hmm.
J'ai rencontré des Français,
oui.
Des Québécois. Des Québécois, j'ai entendu des Québécois, je leur ai pas parlé, mais pas parce que je voulais pas, mais ça s'est pas donné. Là. Il y avait
mon voisin de l'étage au-dessus est allé à Burning Man. Je l'ai
oui,
appris
oui.
en le croisant dans l'escalier l'autre jour. Donc, salut à toi, voisin, si tu m'écoutes.
Oui.
Ben, on dirait que tu réponds à la question par un oui, Nathalie. Donc, j'ai l'impression que peut-être que tu y retourneras, c'est ça, avec des
ah oui,
projets
c'était la question.
ambitieux
oui,
sur
oui.
le plan
mm-hmm.
déploiement, sur
oui.
le plan complexité.
Oui.
Alors, on a très hâte de voir ça.
Oui.
Nathalie Leduc, artiste à Victoria, connue des élèves de l'école Victor Brodeur, ceux qui ont eu la chance de suivre tes cours. Merci beaucoup d'être venue à l'émission pour parler de Burning Man. J'ai l'impression que ça va être une interview en deux volumes.
Oui.
On va la scinder et la présenter sur deux jours. Un gros merci, Nathalie.
De rien.
À
bonne
bientôt.
Journée.
C'était Nathalie Leduc à l'antenne de CILS-FM dans l'émission Le Débrief. L'émission tire à sa fin. On va vous orienter vers le court-métrage dont parle Nathalie dans l'interview. Un court-métrage intitulé « The Flying Machine ». qui donne un bon coup d'œil sur l'édition 2016 de Burning Man. Et justement, on voit apparaître la distributrice de crème glacée ambulante conçue par Nathalie, le Churnatron 1400. Dans ce court-métrage, donc le véhicule fantaisiste de Nathalie apparaît à la marque des 2 minutes environ. Surveillez ça. Donc c'est sur le portail Vimeo, The Flying Machine Burning Man 2016. Vous trouverez sans aucun mal sur ce portail de vidéo diffusion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition du 20 septembre. Excellente soirée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle édition du Débrief.